Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, Dieu le Fit, dans la Drôme, le Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, trois villes qui ont été pour les Juifs qui s'y sont cachés pendant la guerre un havre, un lieu sûr où ils ne risquaient pas d'être dénoncés, traqués par la police française et livrés aux nazis. Si le Chambon-sur-Lignon a officiellement été reconnu par Yad Vashem comme une ville juste et dispose désormais d'un centre de mémoire et d'histoire qui fait partie du réseau des lieux de mémoire coordonné par Mémorial de la Shoah, ce n'est pas le cas de Moissac ni de Dieu le Fit. Bonjour Jean-Claude Simon.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Moissac Ville de Juste Oubliée. Nous vous avons déjà reçu dans cette émission parce que vous êtes aussi un grand témoin. Je rappelle que vous êtes le fils de Chata et Bouli Simon, qui dirigeait ce qu'on a appelé la maison de Moissac, 18 quai du Port, la maison des EI, dans laquelle plusieurs centaines de jeunes ont été cachés et préservés de la guerre. Vous avez déjà inauguré il y a 3 ans l'esplanade des Justes à Moissac, et cette année, vous organisez les 27, 28 et 29 mai prochains, à Moissac toujours, 3 jours de débats, de conférences et de projections, afin de mieux faire connaître cette histoire. Vous avez ainsi rassemblé des historiens, dont certains bien connus de nos auditeurs, comme Serge Klarsfeld, Cathy Azan, pour parler de Lozé, mais aussi Catherine Levertovski, qui a signé un formidable ouvrage de recueil de témoignages d'anciens de Moissac. Il y aura aussi des témoins, comme Roger Fichtenberg, des survivants, comme Sam Greenspan, qui est aussi le héros du film de Jean-Christian Riff, Sam et Jackie, qui sera d'ailleurs projeté le dimanche lors de cette rencontre. Vous avez intitulé votre colloque « Des villes, des justes ». Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'objet de cette rencontre, ce qui va s'y passer ?
Donc, cette rencontre a comme motivation la comparaison de ces trois villes. J'ai été frappé en 2013, quand nous avons fait notre première rencontre à Moissac, l'importance de Moissac, et là le but était de faire revivre Moissac dans la conscience et dans l'histoire des gens de Moissac, de la région, mais aussi dans la communauté juive, parce que Moissac commençait à disparaître. Donc on est arrivé à ça, mais j'ai été frappé parce que il y a 2 étés, j'ai été appelé pour témoigner au Chambon-sur-Lignon, où d'ailleurs j'ai été caché également comme à Moissac, pour un camp EI qui a eu lieu à la Libération. Et j'ai été frappé par ces villes qui ont caché des enfants juifs. Et je me disais, quel est le caractère commun et différent de ces trois villes ?
Et alors, justement, ouais, c'est une approche comparatiste
voilà,
qui vous a
moi,
guidé.
Ce que je voulais voir, et puis ça a un peu dérivé ensuite, ce que je voulais voir, c'était ce qui rapprochait et ce qui différenciait ces trois villes. Si l'on prend le Chambon-sur-Lignon, par ordre alphabétique, le Chambon-sur-Lignon est une ville protestante, austère, de la Haute-Loire, comme vous l'avez rappelé.
Sur le plateau du Vivarais.
Avec un pasteur à sa tête, le pasteur Trocmé, et on avait l'impression que toute cette région était aux mains de, enfin, sous la férule, si je puis dire, du pasteur Trocmé. Si vous prenez Dieu le Fit, là aussi, c'est des protestants, c'est surtout une femme qui s'appelle Marguerite Soubéran et qui a une vie extraordinaire avec un collège qu'elle dirigeait, le collège de Beauvallon, à sauver des juifs, mais aussi des gens qui n'étaient pas juifs. C'est plus éclectique, c'est plus la France, comme dira Bernard Delpal. Cette ville a sauvé aussi des juifs.
Une femme qui, elle, n'est pas austère, c'est une femme très lumineuse, femme libérée, on pourrait dire.
Si vous voulez, elle était en avance sur son époque, parce qu'elle vivait avec une amie, elle était protestante, calviniste, vraiment communiste, elle a été tout ce qu'on peut penser à cette époque. Et cette femme a motivé toute cette région et vraiment, elle est tout à fait exceptionnelle. Et Dieu le Fit est aussi un haut lieu protestant. Et puis Moissac, c'est qui est d'abord une grande ville, 10 000 habitants, les autres c'est 3 000 habitants.
Plus des villages, oui.
Ouais. Et Moissac est radical socialiste, plutôt catholique. Et cette ville nous a permis, c'est exceptionnel, j'ai rarement été cru quand j'ai dit que nous vivions devant tout le monde, à l'air libre, notre judaïsme, que le Shabbat, le vendredi soir, on traversait la ville de Moissac pour aller aux bains-douches municipaux, en chantant « Lève la tête, peuple d'Israël », et que ça ne faisait rien du tout. Nous avons profité à Moissac d'une complicité silencieuse et active de toute la population. Et je voulais voir comment ces trois villes ont sauvé 2000 enfants juifs quand même, et quelles étaient les motivations.
Sur les trois villes, donc 2000 enfants.
2000 enfants sur les trois villes. Alors les historiens, bien sûr, chipotent sur est-ce qu'il y en avait 1000 au Chambon, un peu moins, un peu plus, à Moissac, un peu moins. Bref, 2000 enfants ont été sauvés. À Moissac, sur les 500 enfants, aucun n'a été pris. Aucun, je dis bien. Le seul enfant qui a été déporté de Moissac, c'est un enfant qui est remonté sur Paris à la demande de sa famille, et en particulier de son père, et qui a été pris dans la rave du Vel'd'Hiv. Autrement, pas un enfant à Moissac n'a été pris.
À Dieulfi, il y avait des familles également, hein, qui étaient cachées.
Les familles n'étaient, il y avait beaucoup de familles à Moissac, mais également les familles n'étaient pas de notre ressort.
D'accord.
Pour nous, c'était ce qu'on appelle les vieux. On avait, j'avais 4 ans et les autres, ils avaient 10 ans, donc on voyait des familles. Mais fait exceptionnel, le maire de Moissac, qui était un maire nommé par Vichy au moment où les troupes allemandes ont franchi la ligne de démarcation, il a pris ses couples juifs, les a fait rentrer à l'hôpital avec les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul et ils les ont mis dans les maisons de retraite. Donc même la municipalité nommée par Vichy nous a protégés. C'est une ville exceptionnelle pour laquelle j'ai une reconnaissance infinie.
Alors ça, c'est peut-être un point commun à ces villes. C'est l'historien là, Bernard Delpal, qui sera donc un de vos intervenants, même commissaire scientifique.
Oui, c'est lui qui s'occupe. Il est vraiment le chef scientifique de tout ça, car c'est lui qui a la connaissance et des historiens et qui sait « driver » entre guillemets leurs exposés. Donc c'est lui qui, effectivement, et c'est lui qui représente Dieulfi. Et lui, il dit, Dieulfi, c'est particulier parce que c'est le sauvetage de la France entière. Il y avait des Juifs, pas des Juifs, des Allemands qui n'étaient pas Juifs, etc., qui étaient de gauche. Bon, donc ça, c'est Dieulfi.
Il y a aussi un maire qui donne des gages de loyauté au régime de Vichy. Et dont la secrétaire, enfin une des employées, oui, fabrique des faux papiers. Donc,
bien sûr,
c'est ça.
Mais Moissac, c'est pareil. Le secrétaire de mairie qui s'appelle Darak et qui est juste parmi les nations, et le monsieur qui nous a donné des papiers, alors que le maire, le docteur Maul, qui a été nommé par Vichy, qui est un monsieur que j'ai connu et qui était un médecin extraordinaire, fantastique, gentil et tout, lui a protégé aussi ses juifs, si je puis dire. Mais on est là dans une histoire très française, c'est-à-dire que ces gens, ils sont pétainistes là-haut à Paris, oui, le maréchal, mais en bas, là, au jour le jour, il faut protéger, sauver les enfants.
C'est en ça que faire l'histoire de ces villes et de ces sauvetages, c'est vraiment très intéressant pour la compréhension aussi de la résistance et pour avoir une lecture peut-être moins binaire avec résistance, collaboration. Quoi.
Voilà.
Il y a une zone grise au milieu.
C'est moi ce que j'appelle les gens qui nous ont aidés, j'appelle ça les infrajustes. Mm-hmm. Parce que j'étais caché chez des gens à Moissac qui avaient 35-40 ans, n'a pas d'enfant, et brusquement, il y a un enfant de 5-6 ans qui arrive, qui les appelle papa-maman, alors que j'ai jamais appelé mes vrais parents Bouli et Chata, je les ai appelés que Bouli et Chata, et jamais papa-maman. Bref, il y a un gamin qui est là. Or, la population, elle, sait bien que ces gens, ils n'ont jamais rien dit. Ils ont ces infrajustes, parce que tout seul, vous pouvez pas cacher un enfant, à mon avis. C'est toute cette complicité silencieuse. Je vais à l'école, on dit rien, je m'appelle Ginisti, brusquement. Bon, voilà. Et je pense que toute cette population est complice de notre sauvetage. Et je dois vous dire que cherchant dans Moissac des lieux de mémoire ou des lieux de sauvetage, je suis tombé par hasard sur un couvent des filles des sœurs de la de la Miséricorde qui étaient à 500 mètres de chez nous. Elles ont caché 15 filles juives. Elles ignoraient que nous, on était une maison juive et nous ignorions qu'elles existaient. J'ai réussi à ce que les bonnes sœurs qui étaient à la retraite soient réunies lorsque je les ai rencontrées et je leur ai demandé même pourquoi. Elles ont dit, écoutez, c'était des amfa, hein, et donc on ne pouvait pas faire autrement, avec un accent merveilleux. Et donc, il y a cette distance entre Paris, la position de l'Église, et puis l'action au quotidien. C'était des enfants, il fallait les sauver.
Alors, c'est ce que Bernard Delpal appelle la résistance civile.
Civile.
Mais il y avait aussi une résistance
militaire. Alors on va en parler. Alors on va en parler parce que ça c'est un des grands. Il m'a converti à ça, si je puis dire. C'est que les gens qui ont caché des enfants, la majorité des gens ont été contactés par des œuvres juives, l'OSE, les EI, etc. Et que c'est cette résistance civile, la sixième, qui a fait des faux papiers, qui leur a donné. Cette résistance civile a été quelque chose de très très important, parce que je ne suis pas sûr que dans les collèges, dans les lycées où on a caché des enfants, dans les familles, à la campagne, on ait pris autant d'enfants juifs. Mais cette résistance civile s'est transformée en en résistance militaire, et il y a eu un maquis juif à Vabre, et ce maquis a libéré Castres. C'était des juifs, des compagnies juives. Il y avait beaucoup d'enfants de Moissac. Les grands, comme on disait, sont montés au maquis. Et donc, on ignore, et c'est tout à l'honneur de Bernard Delpalle, de mettre en évidence, avec Cathy Azan, avec d'autres historiens, c'est toute une école, de montrer que les juifs ont résisté civilement et militairement. Et la ville de Castres, ils ont attaqué un train, et ils racontaient, les survivants racontaient que quand les Allemands se sont rendus, les maquisards leur ont dit « on est juifs » et ils ont eu une panique en se disant « ils vont nous trucider », etc. Et la vengeance était dire « on est juifs et on se conduit normalement ». Mais il faut vous dire que cette résistance militaire est importante et on a l'impression qu'elle est un peu gommée dans l'histoire de la résistance en général.
Oui, elle est bien connue, on va dire, des éclaireurs, des jeunes éclaireurs. L'attaque du train, notamment, qui est devenue quand même une légende, on pourrait dire.
Il y a un livre dessus qui a été fait par Jean-Paul Nathan et qui s'appelle « Un éclaireur au maquis ». C'est très vieux, c'est une petite plaquette. Jean-Paul Nathan était un ancien de Moissac, mais tout le monde est ancien de Moissac. Et il a été à l'Express et il a écrit « Un éclaireur au maquis » et c'est l'histoire de ce train, etc.
Il y a un roman aussi d'Ariane.
Ah bon ?
Un roman où elle reprend cette histoire. Et puis, elle en avait parlé aussi dans un de ses précédents romans. Non, il y a c'est une histoire qui revient.
Je crois que l'histoire revient.
Exactement.
Et d'ailleurs, on vient d'avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une demande des anciens de Moissac qui sont en Israël et qui ont lu, eux, parlant le français, le livre de Catherine Lewertowski, mais nous disent, écoutez, nos petits-enfants, parce qu'on saute une génération, hein, on en parle à nos petits-enfants et un peu moins à nos enfants, ne savent pas le français, faites quelque chose. Alors on devait soit le traduire en anglais, soit le traduire en hébreu, on a trouvé que c'était plus élégant de le traduire en hébreu, et donc le livre va sortir en hébreu avant le colloque.
Alors, tout à l'heure, là, quand j'ai présenté le sujet de l'émission, j'ai vu que vous aviez un petit peu tiqué quand j'avais dit que le Chambon avait été reconnu officiellement par Yad Vashem comme une ville juste.
Eh bien, alors, non, ça n'existe pas.
Alors, voilà. Alors
je vais vous le dire parce que
je voulais aborder avec vous. Il n'y a pas de ville juste encore.
Et je l'ai ressenti, si je puis dire, dans ma chair, parce que j'ai été voir un jour Irina Sternfeld, qui est la déléguée du Yad Vashem pour l'Europe, la France, et que sais-je encore. Et donc, j'arrivais avec mon dossier, et puis, j'ose pas dire ma gueule enfarinée, mais j'étais content, et je disais, voilà, on fait un colloque, etc., si Moissac pouvait être ville de juste comme le Chambon. Et je me suis fait recevoir vertement. Ceci est un euphémisme. Et donc, je suis sorti sur le trottoir un peu dépité, parce qu'elle m'a dit, mais ça n'existe pas. J'ai dit, mais le Chambon, elle m'a dit, pas plus. Le Chambon a un certificat, etc. C'est une ancienne de Moissac et qui a été au Chambon, qui s'appelle Colibri et qui est morte il y a 2 ans, je crois, qui a commencé dès 45-46 à faire une campagne, etc. Donc le Chambon est reconnu, le plateau, mais ce n'est pas une ville de juste parmi les nations, ça n'existe pas.
Ce n'est pas une distinction.
Non.
D'accord, donc c'est une légende.
Oui, non, c'est vrai.
J'étais très triste, hein, parce que j'étais
sûr qu'on pouvait reconnaître la ville. Non, mais ils ont une distinction collective quand même. Il y a deux villes.
Il y a une ville en Hollande. Et bon, voilà. Ils ont un certificat. Et le Chambon, pas nous.
D'accord.
Mais bon, voilà.
Alors, justement, parce que c'est une des questions peut-être qui sera abordée, est-ce que vous pensez, vous, qu'il faudrait décerner donc le titre de juste à la ville entière? On aurait tous les habitants. Si on part du principe, comme vous l'avez dit, que finalement le sauvetage a réussi parce que tout le monde a joué le jeu.
J'en aurais vraiment, j'en serais très heureux. Mais le Yad Vashem Israël fait ce qu'il veut. C'est une décoration israélienne, c'est un problème israélien. Je n'ai malheureusement pas à intervenir. Bon, ça nous ferait excessivement plaisir, mais maintenant il y a un réseau ville et village de justes. Et puis je vais vous dire très honnêtement, pour la majorité et des juifs et des français, le Chambon est distingué. Vous pouvez dire ils sont pas ville de justes, ils sont pas. Ça n'a pas d'importance, ils sont rentrés dans l'histoire. Et j'aimerais bien que Moissac rentre aussi dans leur histoire, dans cette histoire.
Alors vous avez l'impression que Moissac n'est pas. Le rôle de Moissac n'est pas reconnu au même titre que celui du Chambon ?
Non, certainement pas. On s'y est pris beaucoup plus tard, pour plein de raisons. Il a été difficile, il a fallu, il y a 3 ans, notre colloque était fait pour ça. Réveiller la ville de Moissac, leur dire que leurs parents et leurs grands-parents avaient été merveilleux, etc. Et qu'eux, ils sont venus nous dire, les petits-enfants, mais ils n'en nous ont jamais parlé. On ne savait pas. J'ai eu encore un monsieur qui m'a dit ça avant de monter, qui m'a dit, écoute, j'étais pas au courant parce que vient de sortir un livre de François Boulet qui s'appelle Moissac 39-45, qui retrace l'histoire de Moissac à cette époque. J'ai donné le livre et les gens sont passionnés. C'est un livre qui se vend. Moissac réaccapare, reprend son histoire.
Et pourquoi ils n'étaient pas au courant? Parce qu'ils étaient ça trop modestes, les gens, pour
oui,
en parler.
Oui, et puis on ne parlait pas.
Ça parlait normal.
On ne se parlait pas entre eux. Non, oui, c'était normal. Lors de l'affaire Mera. J'ai une maison à côté de Moissac.
L'attentat.
Oui.
Non, je tiens à parler d'attentat et pas d'affaire, mais
la tuerie de Mera. Et chaque fois qu'on téléphonait à la mairie ou qu'on téléphone, on dit je suis un enfant juif, etc. On donne mon numéro de téléphone. Donc je suis un peu le juif de service de Moissac et que je prends volontiers. Et c'est une dame qui me téléphone avec cet accent du sud-ouest, mais de l'Aveyron, rocailleux comme ça, et qui me dit je vous téléphone, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Et très franchement, je suis tout retourné. Je dis bravo madame, oui, bon, nous aussi. Elle me dit, mais vous savez, j'ai caché des enfants juifs pendant la guerre. Je lui dis, mais vous êtes juste parmi les... Elle m'a dit, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais sachez que si ça recommence, je reprendrai vos enfants. Donc ça a marqué la population, mais ils n'en ont pas parlé. J'ai été un jour appelé par un monsieur qui était totalement du sud-ouest, le béret, la bille, enfin bref. Et il m'a dit, venez chez moi. Ça m'embêtait, j'ai été chez lui et il m'a montré sa maison et 2 ou 3 petites maisons autour. Il m'a dit, là, j'ai caché 2 ou 3 familles. J'ai dit, et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils sont venus, on s'est revus. Vous avez demandé à être juge? Non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Donc je pense qu'ils ont fait ça, que la population moissagaise, et c'est pour ça que je suis très, très redevable à cette population, a fait ça, entre guillemets, gratuitement. Et ils sont contents. Ils n'en parlent pas parce qu'ils trouvent que c'était normal et que c'est la vie. Et maintenant, c'est le chasse-là, c'est la vie qui continue. Hélas, je voulais et je veux encore que Moissac prenne son histoire en main.
Alors, si ces 3 villes ont joué ce rôle, on a envie de se demander qu'est-ce qui explique... vous avez donné des explications, mais... Pourquoi il n'y en a pas eu plus, en fait? Quelle est l'alchimie qui fait que là,
d'abord, j'en sais rien, c'est pour ça que je fais ce colloque. Et deuxièmement, j'espère, que des villes vont nous écrire en disant « Attendez, là, vous dites que vous êtes 3, mais moi, j'ai sauvé, etc. » Et je pense que vont sortir d'autres villes. Je ne ferai pas un réseau ville et village. Ça, c'est le Yad Vashem France qui fait ça. Mais ce que j'espère, c'est que plein de quelques des petites villes, des grandes villes vont nous dire nous on a sauvé aussi des enfants. Et je dois vous dire que lors du colloque de 2013, un historien de renom a dit oui, mais moi ça qu'ils ont que 4 justes. Alors j'ai dit d'abord qu'on n'était pas aux Jeux Olympiques, qu'on n'était pas plus de médailles, mais que les justes de Moissac étaient différents des autres justes, c'est-à-dire que ils ont été nommé juste parce qu'ils ont sauvé le groupe, tout le monde. Il n'y a pas eu un... Moi, j'ai fait nommer les gens qui m'ont sauvé il y a 2 ans. Ils n'ont jamais été nommés alors qu'il était, le monsieur Ginisti, était responsable de la résistance du coin, s'est occupé après la guerre. Il était dans tous les conseils de famille parce que la moitié des enfants étaient orphelins. Il fallait des conseils de famille. Il y était, etc. Et à Moissac, les 4 justes qui ont été nommés sont des justes qui ont sauvé le groupe, l'entité, les enfants de Moissac.
Parce que l'histoire a continué après la guerre, hein, c'est important.
Alors ça, c'est une des choses de Moissac.
Forcément le cas dans les autres.
Non, pas partout. Madame Trocmé a écrit une fois dans son livre, les enfants du Chambon se sont envolés comme une volée de moineaux. À Moissac, quand on a fait la dispersion de la maison, Bouly a dit à tous les enfants, le premier Shabbat de la Libération, tous rendez-vous ici. Et le premier Shabbat, tout le monde était là, il ne pouvait pas loger uniquement dans la maison parce qu'on était tous là. Et ça a duré jusqu'en 1956. C'était une maison qui a continué. Et puis après 1956, cette maison a fermé pour différentes causes et est allée au château de la Versine, dans l'Oise, et a continué. Et maintenant, c'est Lauzet qui a repris le château de la Versine.
D'accord. Donc, notamment pour s'occuper des orphelins, c'est ça,
de la Shoah ou... De la Shoah, il n'y en a plus. Des cas difficiles, des juifs,
ah oui,
des
non-juifs.
Ah
oui, aujourd'hui, bien sûr, mais à l'époque,
À l'époque, ça continuait. Des enfants de la Shoah, puis des enfants juifs en difficulté. Et puis, sont apparus plein d'écoles juives, donc qui les prennent en charge. Et c'était un peu compliqué. Donc, Lauzet a repris cette œuvre, et ce qui s'appelle maintenant Bouly et Chata-Simon, et c'est Lauzet.
Je me demandais aussi par rapport à ces trois villes, si elles n'ont pas, en fait, faire l'histoire de ces trois villes a une valeur pédagogique aussi pour les jeunes générations. Parce que finalement, ce que ça montre, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est que résister, ce n'est pas forcément prendre une arme et se battre, ce qui demande du courage, et ce n'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Mais c'est aussi, tout simplement, ça commence par ne rien faire, finalement. C'est-à-dire ne pas dénoncer, se taire...
C'est ça qui est important. C'est qu'il y a, il y a eu des dénonciations à Moissac, d'adultes. La maison, jamais. Quand les gendarmes ou la Gestapo sont venus, on était prévenus, et c'était une maison EI, donc on avait été envoyé en camp volant. Il n'y avait plus personne. Et au minimum, on traversait le pont. Il y a un pont qui s'appelle le pont Napoléon, et on traversait et on campait jusqu'à ce qu'on nous dise qu'on pouvait rentrer. Donc, on a toujours été prévenus, on a toujours été protégés. Et pourquoi ici, le colloque va essayer de nous le dire, Cathy Azan va nous le dire, et nous espérons beaucoup qu'on pourra tirer une conclusion, et qu'on verra, là encore, je vous le répète, d'autres villes et villages, car quand même, la France a sauvé 75 000 juifs, si mes renseignements sont bons.
Non, 75 000 ont été déportés. Mais par contre, la proportion d'enfants sauvés est de l'ordre de 88% d'enfants sauvés, voilà. Alors que pour les gens sauvés, c'est 75% des juifs français. Pardon. Donc proportionnellement, à tous les autres pays...
La France est le mieux.
Et le mieux à la fois dans le nombre de juifs qui ont été sauvés et en particulier sur le nombre d'enfants qui ont été
sauvés. Alors les enfants... Mais Moissac, c'est si vous voulez, je n'ose pas dire le positif ou l'antithèse de Isieux, mais à Isieux, ils ont tous été déportés, et c'est ce qu'un jour Clarsfeld nous a dit. Il était venu parce qu'on avait posé une plaque sur la place Bouly et Chata-Simon à Moissac, et il nous a dit, vous savez, vous avez beaucoup de chance, je ne connais pas vos noms, je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes de Moissac et vous avez tous été sauvés alors que je connais le nom de tous les enfants d'Isieux par cœur. Qui eux, donc, on était là et on s'est dit, oui, on a eu beaucoup de chance où les EI ont bien fait le travail.
Merci Jean-Claude Simon. Je rappelle le titre de cette rencontre des villes des justes. J'invite les auditeurs de la région de Toulouse et même au-delà à s'y rendre les 27, 28 et 29 mai. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.